J'avais déjà ouï dire, Socrate, avant que de converser avec toi, que tu ne savais autre chose que douter toi-même et jeter les autres dans le doute. Et je vois à présent que tu me fascines l'esprit par tes charmes et tes maléfices. Enfin que tu m'as comme enchanté, de manière que je suis tout rempli de doutes. Et s'il est permis de railler, il me semble que tu ressembles parfaitement, pour la figure et pour tout le reste, à cette large torpille marine qui cause l'engourdissement à tous ceux qui l'approchent et la touchent. Je pense que tu as fait le même effet sur moi. Car je suis véritablement engourdi d'esprit et de corps, et je ne sais que te répondre. Cependant, j'ai discouru mille fois au long sur la vertu devant beaucoup de personnes, et fort bien à ce qu'il me paraissait. Mais à ce moment, je ne puis pas seulement dire ce que c'est. Tu prends, à mon avis, le bon parti de ne point aller sur mer, voyager en d'autres pays. Car si tu faisais la même chose dans quelque autre ville, on te punirait bien vite du dernier supplice comme un enchanteur.
Tu es un rusé, Ménon. Et tu as pensé m'attraper.
En quoi donc, Socrate ?
Je vois bien pourquoi tu m'as comparé.
Pourquoi, je te prie ?
Afin que je te compare à mon tour. Je sais que tous ceux qui sont beaux aiment qu'on les compare. Cela tourne à leur avantage, car les images des belles choses sont belles, ce me semble. Mais je ne te rendrai pas comparaison pour comparaison. Quant à moi, si la torpille, étant elle-même engourdie, jette les autres dans l'engourdissement, je lui ressemble. Sinon, je ne lui ressemble pas, car si je fais naître des doutes dans l'esprit des autres, ce n'est pas que j'en sache plus qu'eux. Je doute au contraire plus que personne, et c'est ainsi que je fais douter les autres. Maintenant, quant à la vertu, je ne sais point du tout ce que c'est. Pour toi, peut-être le savais-tu avant que de t'approcher de moi, et en ce moment tu parais ne le point savoir. Cependant, je veux examiner et chercher avec toi ce que ce peut être.
Et comment t'y prendras-tu, Socrate, pour chercher ce que tu ne connais en aucune manière ? Quel principe prendras-tu, dans ton ignorance, pour te guider dans cette recherche ? Et quand tu viendrais à le rencontrer, comment le reconnaîtrais-tu, ne l'ayant jamais connu ?
Je comprends ce que tu veux dire, mais non. Vois-tu combien est fertile en dispute ce propos que tu mets en avant ? Il n'est possible à l'homme de chercher ni ce qu'il sait, ni ce qu'il ne sait pas, car il ne cherchera point ce qu'il sait, parce qu'il le sait, et que cela n'a point besoin de recherche, ni ce qu'il ne sait point, par la raison qu'il ne sait pas ce qu'il doit chercher.
Est-ce que ce discours ne te paraît pas vrai, Socrate ?
Nullement.
Me dirais-tu bien pourquoi ?
Oui, car j'ai entendu des hommes et des femmes habiles dans les choses divines.
Que disaient-ils ?
Des choses vraies et belles, à ce qu'il me semble.
Quoi encore ? Et quelles sont ces personnes-là ?
Quant aux personnes, ce sont des prêtres et des prêtresses qui se sont appliqués à pouvoir rendre raison des choses qui concernent leur ministère. C'est Pindare et beaucoup d'autres poètes, j'entends ceux qui sont divins. Pour ce qu'ils disent, le voici. Examine si leurs discours te paraissent vrais. Ils disent que l'âme humaine est immortelle, que tantôt elle s'éclipse, ce qu'ils appellent mourir, tantôt elle reparaît, mais qu'elle ne périt jamais, que pour cette raison il faut mener la vie la plus sainte possible, car les âmes qui ont payé à Proserpine la dette de leurs anciennes fautes, elles les rendent au bout de 9 ans à la lumière du soleil. De ces âmes sortent les rois illustres, célèbres par leur puissance, et les hommes grands par leur sagesse. Dans l'avenir, les mortels les appellent de saints héros. Ainsi, l'âme étant immortelle, étant d'ailleurs née plusieurs fois, et ayant vu ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre, et toutes choses, il n'est rien qu'elle n'ait appris. Il n'est donc pas surprenant qu'à l'égard de la vertu et de tout le reste, elle soit en état de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement. Car, comme la nature tout entière se tient, et que l'âme a tout appris, rien n'empêche qu'en se rappelant une seule chose, ce que les hommes appellent apprendre, on ne trouve de soi-même tout le reste, pourvu qu'on ait du courage et qu'on ne se lasse point de chercher. En effet, ce qu'on nomme chercher et apprendre n'est absolument que se ressouvenir. Il ne faut donc point ajouter foi aux propos fertiles en dispute que tu as avancés. Il n'est propre qu'à engendrer en nous la paresse, et il n'y a que des lâches qui puissent se plaire à l'entendre. Le mien, au contraire, les pousse au travail et à la recherche. Ainsi, je le tiens pour vrai, et je veux en conséquence chercher avec toi ce que c'est que la vertu.
J'y consens, Socrate. Mais te borneras-tu à dire simplement que nous n'apprenons rien, et que ce qu'on appelle apprendre n'est autre chose que se ressouvenir? Pourrais-tu m'enseigner comment cela est ainsi?
J'ai déjà dit, mais non, que tu es un rusé. Tu me demandes si je puis t'enseigner, dans le temps même que je soutiens qu'il n'y a pas d'enseignement, et qu'on ne fait que se ressouvenir, afin de me faire tomber sur le champ en contradiction avec moi-même.
Non, par Jupiter. Socrate, je ne t'ai point parlé ainsi dans cette vue, mais par pure habitude. Cependant, si tu peux me montrer que la chose est telle que tu dis, montre-le-moi.
Cela n'est point aisé, mais en ta faveur, je ferai tous mes efforts. Appelle-moi quelqu'un de ces nombreux esclaves qui sont à ta suite, celui que tu voudras, afin que je te fasse voir sur lui ce que tu souhaites.
Volontiers. Et si.
Est-il grec et sait-il le grec?
Fort bien. Il est né dans notre maison.
Sois attentif à examiner s'il te paraîtra se ressouvenir lui-même ou apprendre de moi.
J'y ferai attention.